Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Maison rustique du 19e siècle », tome 1 « Agriculture proprement dite » et le premier volet d'une vaste encyclopédie pratique consacrée aux activités rurales, dirigée par Charles-François Bailly de Merlieu et issue d'un travail collectif mené par des agronomes et praticiens. Cet ouvrage paraît dans le contexte d'une France encore très largement agricole. Son ambition est de réunir des méthodes de culture jugées, éprouvées en France, en Angleterre, en Allemagne et en Flandre, afin de servir les cultivateurs, fermiers, régisseurs et propriétaires ruraux. Ce tome se concentre sur les bases matérielles de la production végétale, connaissance des sols, amendements, engrais, travaux des champs, récoltes et céréales. Il ne relève donc pas du manuel moderne fondé sur les sciences agronomiques actuelles, mais du document technique et historique. Sa finalité est double: transmettre des procédés applicables dans une exploitation du 19e siècle et organiser un savoir rural alors dispersé entre traditions locales, observations pratiques et progrès scientifiques naissants. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le sol comme point de départ de toute décision culturelle. Le premier tome place la terre au centre de la production agricole. Cette priorité est cohérente avec une agriculture où la fertilité du sol conditionne directement les rendements, les choix de culture et la valeur économique d'un domaine. L'ouvrage traite des sols, de leurs propriétés et des moyens de les améliorer, avant de considérer les plantes comme des objets isolés. Une telle organisation montre que la culture ne peut être réduite au semis et à la récolte, elle dépend de la texture, de l'humidité, de la profondeur et de l'état productif des terrains. Les amendements et les engrais sont ainsi envisagés comme des instruments de restauration ou de maintien de la fertilité. Pour le lecteur actuel, l'intérêt est moins de reprendre chaque recommandation que de comprendre une logique agronomique fondamentale, adapter les pratiques aux conditions physiques du milieu. Le livre témoigne aussi d'une période de transition durant laquelle les connaissances empiriques des exploitants commencent à être mises en ordre dans un langage plus systématique. Il permet donc d'observer comment se construit une gestion raisonnée des terres avant les outils d'analyse modernes, tout en rappelant que la durabilité d'une exploitation reposait déjà sur la préservation des capacités productives du sol. Deuxièmement, les engrais et amendements dans une économie de la fertilité. La place accordée aux amendements et aux engrais révèle un problème central de l'agriculture du 19e siècle : produire davantage sans épuiser durablement les terres. Dans une exploitation rurale, les matières fertilisantes ne sont pas seulement des apports techniques. Elles relient culture, élevage, travail humain et organisation du domaine. Les résidus, fumiers et ressources disponibles doivent être recueillis, conservés puis employés au moment approprié. Cette logique explique pourquoi un traité pratique aborde simultanément la terre, les travaux agricoles et les productions végétales. La fertilisation forme un système de circulation des matières plutôt qu'une opération indépendante. L'ouvrage cherche à guider le praticien dans le choix de procédés susceptibles d'améliorer un terrain ou de soutenir une culture. Certaines explications appartiennent inévitablement aux connaissances de leur époque et ne doivent pas être confondues avec les recommandations agronomiques contemporaines. Toutefois, la question posée reste actuelle: comment ajuster les apports aux besoins réels des sols et des plantes, tout en limitant le gaspillage des ressources. Le tome constitue à ce titre un témoignage utile sur les origines pratiques d'une pensée de la fertilité, fondée sur l'observation des parcelles et sur la recherche d'une équilibre entre prélèvement agricole et restitution au sol. Troisièmement, les travaux des champs comme organisation méthodique du temps agricole. En consacrant une part importante aux travaux agricoles, le volume présente la ferme comme un ensemble d'actions coordonnées dans le temps. Préparer le terrain, semer, entretenir les cultures et récolter exige une succession de décisions dont l'efficacité dépend des saisons, de la météo, de la main d'œuvre et des outils disponibles. Cette dimension pratique distingue une encyclopédie rurale d'un simple traité de botanique. Il ne suffit pas de connaître une plante utile, il faut savoir à quel moment intervenir et comment intégrer chaque opération au calendrier général du domaine. Le lecteur comprend ainsi que l'agriculture est une discipline de planification aussi bien que de production. Les techniques décrites doivent être replacées dans leur contexte historique, marqué par une mécanisation limitée et par une forte dépendance aux ressources locales. Néanmoins, le principe demeure lisible: la qualité d'une récolte découle en partie de la régularité et de la cohérence des opérations qui la précèdent. L'ouvrage donne également une valeur intellectuelle aux gestes du cultivateur. Labour, préparation, entretien et moisson ne sont pas présentés comme de simples routines, mais comme des pratiques qui demandent jugement, expérience et adaptation. Cette mise en méthode du travail agricole est l'une des fonctions majeures de l'encyclopédie pratique. Quatrièmement, les céréales et les récoltes au cœur de la sécurité alimentaire rurale. Le traitement des céréales et des récoltes souligne le rôle économique et alimentaire majeur des cultures de plein champ. Dans la France rurale du 19e siècle, les grains ne représentent pas seulement une marchandise, ils sont liés à l'alimentation quotidienne, à la stabilité des exploitations et à l'approvisionnement des populations. Leur culture impose donc une attention particulière au sol, au choix des pratiques et à la conduite des travaux saisonniers. En intégrant les céréales dans un ensemble plus large de principes agricoles, le livre évite de les traiter comme une production autonome. Leur réussite dépend des conditions de fertilité, de la préparation de la terre et de la bonne exécution des opérations culturales. Cette approche globale aide à comprendre la vulnérabilité des économies rurales face aux mauvaises récoltes. Une défaillance aux champs pouvait avoir des effets qui dépassaient largement le cadre d'une parcelle. Pour un lecteur contemporain, ces sections offrent une perspective historique sur les fondements matériels de la sécurité alimentaire avant la généralisation des intrants industriels, des transports rapides et des systèmes agricoles spécialisés. Elles montrent aussi pourquoi la transmission de procédés culturaux jugés fiables constituait une ambition éditoriale importante. Le savoir sur les céréales était alors un savoir de première nécessité, destiné à réduire les incertitudes inhérentes au travail de la terre. En dernier lieu, une encyclopédie collective pour diffuser les savoirs ruraux européens, la singularité de Maison Rustique du 19e siècle tient autant à son projet éditorial qu'à son contenu. Le tome inaugural participe à une entreprise encyclopédique élaborée par de nombreux spécialistes, sous la direction de Charles-François Bailly de Merlieu. Il vise à rassembler des savoirs agricoles dispersés et à les rendre utilisables par des lecteurs engagés dans la conduite quotidienne d'un domaine rural. La référence, revendiquée à des méthodes pratiquées dans plusieurs pays européens, indique une volonté de comparaison et de circulation des techniques. Il ne s'agit pas nécessairement de transposer mécaniquement une méthode étrangère, mais d'en tirer des procédés susceptibles d'enrichir les pratiques françaises. Cette ouverture donne au livre une portée plus vaste qu'un recueil de coutumes locales. En même temps, son orientation reste résolument appliquée. Les connaissances doivent servir aux petits cultivateurs, comme aux fermiers, aux régisseurs ou aux propriétaires. Le volume illustre ainsi une phase importante de vulgarisation scientifique, où des éditeurs et agronomes cherchent à relier observation, expérience et diffusion d'imprimés. Son succès historique signale que ce besoin de synthèse était réel. Pour l'étude de l'histoire rurale, l'ouvrage permet de saisir comment le savoir agricole devenait un objet organisé, transmissible et discuté au sein d'un espace européen de plus en plus attentif au progrès des cultures. En conclusion, ce premier tome intéressera avant tout les lecteurs désireux de comprendre les pratiques agricoles et les représentations rurales du 19e siècle. Historiens, amateurs de patrimoine agricole, chercheurs en histoire environnementale et lecteurs curieux des origines de la vulgarisation technique y trouveront une source riche. Il peut également éclairer les jardiniers et agriculteurs contemporains, non comme guide directement applicable, mais comme document permettant de mesurer l'évolution des méthodes, du vocabulaire et des priorités agronomiques. Son bénéfice principal est de restituer la cohérence ancienne de l'exploitation rurale. Le sol, la fertilisation, le calendrier des travaux et les cultures céréalières y apparaissent comme des éléments interdépendants. Cette cohérence aide à dépasser une vision simplifiée de l'agriculture traditionnelle, souvent réduite à des gestes immuables ou à des savoirs purement locaux. Face aux manuels agricoles modernes, beaucoup plus spécialisés et fondés sur des données scientifiques actualisées, ce livre se distingue par son ambition encyclopédique et par son statut de témoignage historique. Il articule des conseils pratiques avec une volonté de classer et diffuser les connaissances utiles à une large diversité de responsables ruraux. Sa valeur ne réside donc pas dans une actualité technique littérale, mais dans la précision avec laquelle il rend visible un moment où l'agriculture devient un domaine de savoir organisé, comparatif et accessible par l'imprimé. Si vous souhaitez soutenir Charles Bailly, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.